Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 10 de la saison 3. De tous les épisodes que j'ai enregistrés, je crois pouvoir dire que celui-ci est celui qui se rapproche le plus de notre vécu. Et pourtant, leur histoire est unique. Leurs choix sont propres à elles et leur parcours leur ressemble parce qu'il est le résultat de leur réflexion. Elles l'avaient pressenti, la fibre au pas était la méthode qu'elles emploieraient comme une évidence. Elles ont dû attendre, faire des essais avant d'en arriver à se repencher sur la ROPA. Elles ont choisi l'implantation de deux embryons parce qu'elles rêvaient de multiples, comme si elles savaient que la vie avait ce plan-là pour elles. De deux, elles sont passées à une grossesse triple, une aventure incroyable dont je suis moi-même reconnaissante chaque jour. Elles, ce sont Solène et Noémie, de Hâte l'avenir est à nous, maman de Gabin, Louis et Justin. Je dois vous prévenir, cet épisode est plein de surprises et de rebondissements. J'ai beaucoup aimé me replonger dans mes souvenirs en miroir avec les leurs, et je peux vous dire qu'elles rendent justice à ce cadeau de la vie, en vous partageant tous leurs jolis moments. Alors on ne va pas se mentir, des triplés c'est aussi des moments plus difficiles, mais quand on a vécu une grossesse telle que celle-là, on bénit chaque jour de leur présence, et on célèbre la vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Solène, bonjour Noémie.
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement. Je dois avouer que, en tant que maman, moi aussi, de triplé, je suis très curieuse d'écouter et d'enregistrer votre histoire aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir réussi à prendre le temps d'enregistrer avec moi ce soir.
Avec plaisir.
Est-ce que, pour commencer, vous pouvez vous présenter et me présenter votre famille ?
Alors, je m'appelle Solène, j'ai 33 ans et je suis en couple avec Noémie. Depuis 8 ans, et on est les heureuses mamans de 3 petits garçons, donc Gabin, Justin et Louis, des triplés, qui sont nés le 21 mars.
23 mars,
oh là,
23 mars.
Tu veux la refaire, je couperai ça.
C'est l'heure. C'est pas grave.
Non mais c'est tellement intense les grossesses de triplés qu'on est tellement hospitalisés qu'au bout d'un moment on sait plus quoi.
Il y a trop de chiffres.
C'est ça.
Donc voilà, donc qui ont 6 mois.
Impeccable. Et moi c'est Noémie, j'ai 33 ans aussi, comme Solène, on est de la même année. Et puis bah forcément, maman aussi de triplés. Hein. Voilà.
C'est bizarre, vous êtes maman toutes les deux de triplés, c'est fou ça.
Ouais, 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 c'est dingue. Hein.
C'est bizarre, hein. Comment c'est possible? Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me raconter, parce que je suis curieuse, comment vous vous êtes rencontrés?
Eh bien, on travaille ensemble. Ça faisait 6 mois qu'on travaillait ensemble. Quand je suis arrivée au travail, c'est Solène qui m'a formée. C'était ma formatrice pendant 15 jours. Et puis après, petit à petit, s'est rapprochés. Enfin, elle était en couple de son côté. J'étais en couple du mien, mais pas forcément heureuse, toutes les deux. Solène n'était pas avec une femme, elle était avec un homme. Hein. Donc j'aurais... Moi, c'était impensable que je me mette avec elle, typiquement. C'était pas forcément mon style de femme. Il y avait rien qui m'attirait, à part qu'on s'entendait très bien. Et puis après... Plus on s'est confié l'une l'autre, bah il y a quelque chose qui est né et voilà.
Ouais, ça s'est fait tout seul. On a appris à se connaître et du coup, bah voilà, on s'est lancé.
Et alors du coup, est-ce que donc là je vais poser la question à Noémie. Est-ce que toi Noémie, tu avais déjà envisagé la parentalité ou pas? Est-ce que tu te projetais maman?
Honnêtement non. Parce que moi, depuis mes 15 ans, je sais que j'aime les femmes. Et typiquement, quand on aime les femmes à 15 ans, on se dit que déjà, on se mariera jamais parce que c'est pas ouvert. Même si ça s'est ouvert quelques années plus tard, que être parent, c'est très compliqué. Et à part partir à l'étranger, et je trouvais ça très onéreux. Enfin, je trouve ça quand même très cher de se dire si on veut être maman, il faut payer. Et pour moi, la vie, ça n'a pas de prix. Donc non, j'aurais jamais pensé. Après, j'ai des neveux et du coup, je donnais mon amour en fait à ses enfants. Avant de rencontrer Solène, j'ai un neveu qui a 14 ans. Et puis finalement, en rencontrant Solène, Solène voulait des enfants et en fait, c'était... Du coup, on se repose la question, en fait, si on en veut des enfants. Simplement, on se l'interdit. Typiquement, c'est ça, quoi.
Oui, oui, complètement.
Donc voilà.
Et toi, Solène, du coup, t'étais engagée donc dans une relation hétéro. Est-ce que tu envisageais... Enfin, je suppose que tu t'es pas posé la question de la parentalité, c'était évident.
C'est ça.
Dans le
contexte. Un jour, ça arrivera forcément. Après, les enfants, ça se réfléchit aussi. Hein. C'est pas parce que c'est facile entre guillemets à faire que on peut les faire comme ça. Donc c'est vrai que voilà, la question ne s'est pas posée parce que je n'étais pas heureuse. Et au moment où justement j'ai rencontré Noémie, on en a parlé rapidement. Et on a commencé à se renseigner, alors qu'au début, il a fallu qu'on se marie, on a essayé de faire tout ça dans les règles, entre guillemets. Mais nous, dans tous les cas, ce qu'on voulait, c'était que ce soit clean, donc c'était de partir à l'étranger dans une clinique.
D'accord.
C'était pas de faire ça en artisanal ou quoi que ce soit. Nous, on n'était pas, pour nous, en fait. Voilà.
Ce que je peux comprendre. Et alors... On va revenir un peu à vos débuts. Donc bon, vous dites que vous avez parlé hyper rapidement finalement de faire des enfants, ce que je trouve chouette. Enfin, dans le contexte où il fallait que toi, admettes que tu rentrais dans une relation avec une femme, que du coup, ça changeait forcément la vision de la parentalité. C'est du coup, vous aviez réfléchi. Enfin, tu dis vous êtes renseigné, vous aviez tout de suite réfléchi clinique ou vous avez tâtonné un peu et vous. Enfin.
Non, tout de suite.
Et sous combien de temps vous êtes lancé?
Tout de suite clinique parce qu'on savait que c'était possible. Après, on connaissait pas les prix ni quoi que ce soit, mais de suite direct dans nos têtes, en parlant souvent justement, on se disait que c'était clinique de toute façon, que ça allait pas se faire maintenant, qu'il fallait attendre un petit peu, tout ça. Mais dans tous les cas, c'était clair pour nous.
Oui, en fait, on voulait se dire que, le jour où il fallait qu'on explique à notre enfant comment elle a été conçue, on voulait expliquer ça proprement et... Il y a d'autres méthodes où je me dis j'arriverai jamais à expliquer à mon enfant comment il a été conçu, quoi. C'était juste pas possible pour moi. Donc,
Oui, parce que ça vous ressemblait pas.
Non, tout
c'est
à
ça.
Fait.
Après, voilà, chaque parcours est propre à chacun. Et c'est vrai que on se retrouve chacun dans nos parcours. Quoi. Et alors, du coup, vous êtes lancé au bout de combien de temps?
Après, Solène, elle dit rapidement, mais c'était pas la première année non plus. Première, au bout d'un an, on s'est paxé. Au bout de trois ans, on s'est mariés.
3 ans, ouais.
Et en fait,
on a lancé direct derrière.
Voilà, nous c'était le critère. En gros, il fallait qu'on soit mariés pour pouvoir accéder à ça, parce que non, pour l'insémination, je crois que la clinique elle le demandait pas.
Non.
Mais dans tous les cas, après, pour que celle qui ne porte pas l'enfant puisse l'adopter, il fallait forcément être marié. Donc c'était nous notre critère d'être marié. Donc je crois que c'était au bout de 3 ans.
3 ans, ouais.
Qu'on a vraiment fait la démarche d'aller en Espagne, justement, une clinique avec qui on a eu des contacts, qui s'est très bien passé. Donc on s'est lancé avec cette clinique en Espagne.
D'accord. Et alors, du coup, pourquoi l'Espagne plutôt que la Belgique ou plutôt qu'un autre pays? Bon, en l'occurrence, c'est souvent l'Espagne-Belgique.
Parce que on habite dans le sud, un peu plus sud, région, région Rhône-Alpes. Et puis, typiquement, c'est bête à dire, mais partir en Espagne à Barcelone, ça fait penser aux vacances.
Ouais.
Donc, c'était aussi de se dire, ça fait des vacances et c'est pas, on part tête baissée. Après, je connais pas la Belgique, donc peut-être que ça aurait été une très belle aventure. Mais je sais quand même plus loin.
On boit de la bonne bière et on mange.
Et il se dit aussi que, soi-disant, les Belges sont un peu moins cool que les Espagnols. Donc, on s'est dit,
ah ouais,
c'est ce qu'on a entendu plusieurs fois.
Oui, oui, après.
Donc après, c'est des on-dit, hein, mais voilà.
Oui, mais
donc,
voilà,
à faire, on préférait partir dans le sud, c'est beaucoup plus près de chez nous. Et, ouais, et puis, c'est plus sympa, ouais, le soleil.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et donc, je crois savoir que vous avez choisi la clinique, ouais, Eugène. Et pourquoi ce choix-là? Alors, je vous laisse en parler.
Ben, en fait, pourquoi? On s'est renseigné quand on a tapé sur Internet différentes cliniques en Espagne. Mmh. Et Eugène, c'est celle qui est sortie en premier, typiquement.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est souvent celle qui sort en premier.
C'est ça. Et du coup, ben, on est parti en vacances une semaine vers Barcelone. Mmh. On a vu un premier contact avec le médecin qui s'est très, très bien passé. Du coup, ben, on a continué avec Eugène. Voilà. On ne s'est pas posé plus de questions que ça.
Non, on n'a pas cherché ailleurs.
Oui.
On en a regardé deux, trois autres pour des devis, des choses comme ça, mais voilà, ça ne nous a pas plus marqué que ça. Donc, on est resté chez.
Bon, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que le référencement, ça paye.
Ah bah oui, carrément.
Faut être clair. Ils sortent en premier. Et c'est vrai que moi, je me souviens que j'avais fait le premier devis que j'ai fait faire, c'était Eugène.
Ah bah.
Et pourtant, je ne suis pas passée en Espagne, mais c'est eux qui sont sortis en premier quand j'ai tapé PMA étranger, quoi, à l'étranger. Bon, après, je te dis, c'était il y a 10 ans, donc je ne sais plus, mais c'est ce que j'ai tapé, mais c'est un truc dans le genre.
Ouais, c'est ça, c'est les premiers qui sortent. Donc, bah, tant qu'à faire, on se dit, bah, allez, on se lance. Ça a l'air d'être bien, bien expliqué et tout. On va voir hein, ce que ça donne. Et au final, on est resté avec eux.
Et du coup, ça s'est vérifié pour vous?
C'est ça, ouais.
Ah oui, franchement, le premier entretien très, très bien passé. Franchement, il n'y avait rien à dire. Ouais.
Impeccable. Et au niveau du parcours, alors, qu'est-ce que vous avez suivi comme parcours?
Alors, au début, on a tenté, forcément, financièrement parlant, hein, on voulait faire des inséminations. Donc, on a tenté trois inséminations.
Sur 3 ans?
Sur 3 ans, donc une par an.
D'accord.
Mine de rien, c'est quand même assez onéreux. Hein, puis, on a toujours espoir que dès la première, ça va marcher. Donc, la première marche pas, on attend. La deuxième marche pas, toujours pas. La troisième marche pas, et puis ben là voilà, on commence à se poser les bonnes questions en se disant ben ça va peut-être falloir voir du côté d'une FIV quoi.
Ouais, et puis c'est en plus c'est long 3 ans.
Oui oui, c'est long et après c'était enfin quand la troisième a été un échec, ça a été très très dur pour Solène parce que c'est Solène qui avait ce désir de porter l'enfant et moi pas forcément le désir de porter l'enfant mais le désir d'être maman et en fait le troisième échec a été très dur pour Solène alors que moi bah ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce qu'en fait, je pense que j'étais pas prête dans cette démarche-là. Parce que cet enfant, il était pas de moi, il me représentait pas, en fait. Je sais pas comment dire. Alors que la fibre pas, dès le début, on en avait parlé. Sauf que forcément, le budget, c'est pas du tout le même. Faut être honnête. Hein. Finalement, on s'est dit, ben si, c'est ça qu'on veut, quoi. Ouais. Donc on s'est donné.
C'est eux qui vous en ont parlé?
Eh ben, ils ont parlé de FIV, et après, nous, de suite, quand on parle de FIV, ben, c'est évident que ce soit la FIV ou pas.
Oui, mais parce que moi, je connaissais pas, hein. Soyons, pour être transparente avec vous, jusqu'à ce que j'enregistre des épisodes, je ne connaissais pas la FIV ou pas.
Okay. Non, en fait, au tout début, quand on a commencé à se renseigner, justement, sur les IAD et tout ça, on regardait, tout ce qui était possible. Et c'est là où on avait vu justement la fibre au pas. Et moi, j'avais dit waouh, c'est génial et tout ça. Sauf que quand on a vu le prix, on s'est dit non, bon, c'est pas grave, ce sera pas pour nous.
Bon, au final, voilà. Non, c'est clair.
Et en fait, depuis le début, comme si ça nous pendait au nez, c'est ce qu'on voulait, quoi.
Mais oui, voilà. Et finalement, c'est le chemin qui vous a amené jusque là. C'est vrai que je pense que moi, si j'ai même pas regardé, bon, alors peut-être qu'en 2011, ça n'existait même pas, tu vois. Je pense que si j'ai pas regardé, c'est parce que j'envisageais même pas une fille. Ouais. Je me suis jamais dit, enfin. C'était, pour moi, c'était trop, quoi.
Tu te dis, non, c'est pas pour toi. Et si.
Ouais, voilà. Et donc, du coup, vous arrivez sur l'idée de la FIV. C'est eux qui, au bout de 3 essais, vous ont dit, il faut envisager la FIV.
Bah, c'était pas il faut, mais c'était en gros, après avoir échangé au téléphone, et que, ce troisième échec était très, très dur. Alors qu'en soi, il y avait pas vraiment, enfin, ils savaient pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Ils nous ont dit que, c'est même nous, je crois, qu'on leur a dit.
Il y avait ta trompe de boucher aussi.
Oui, il y avait ta trompe de boucher. Mais après, c'était nous qu'on a dit, si on part sur une FIV, est-ce qu'on n'a pas plus de chance? Et effectivement, eux, de suite, ils savent très bien que la FIV, c'est pas le même procédé, donc il y a beaucoup plus de chances que ça s'accroche, quoi.
Oui, c'est ça. Puis, tout est quand même vraiment très monitoré.
Oui.
Il y a peu de chance, on laisse peu de chance au
c'est
hasard.
C'est ça. Hein.
Et donc, FIV repas. Donc, là, vous leur avez dit, OK pour la FIV, mais une repas.
Oui, c'est ça.
Comment ça s'est passé pour vous? Parce que là, du coup, Noémie, t'étais vachement investie dans le process.
Ouais, tout à fait. Puis bon, pour être transparente, moi, j'avais jamais consulté un gynécologue, donc c'était une sacrée étape pour moi aussi. Hein.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Donc,
Alors là, oui, parce que là, tu passes directement à la fille. Tu fais pas d'entre-deux, quoi.
C'est ça. Et puis en fait, tout s'est très bien passé. Hein. C'est sûr qu'il y a pas mal d'examens à passer, sans compter après, ben, tous les traitements qu'il y a à faire, la ponction. Mais en fait, quand on veut, ben, tous ces examens, je trouve qu'ils sont transparents. C'est... Non, franchement, ça s'est plutôt très bien passé. Mon corps a bien réagi. Après, encore une fois, heureusement. Hein. Je pense que quand on prend un traitement et qu'on réagit pas derrière, ben, à mon avis, ça va être très dur.
Oui, c'est sûr.
Donc, oh non, moi, ça avait bien réagi. Les examens en France se sont bien passés. Et puis après, le jour même en Espagne.
La ponction aussi, a priori.
Ouais, 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 franchement, ça allait, quoi. Ouais, ouais.
Vous avez de bons résultats, du coup, sur la ponction?
Ben, autant aux échographies, il y avait plein de follicules, on savait pas trop ce que ça allait donner. Donc, on n'était pas non plus hyper confiante. Et puis, le jour de la ponction, donc, ils en ont ponctionné 13. Finalement, il n'y avait que 11 qui ont été matures. Et sur les 11, ben, il y en a 9 qui ont fait des blastocystes.
Ah oui. C'est donc, un beau résultat.
Ils ont dit que c'était un... Oui, c'est ça. Ils nous ont dit que c'était un très très bon résultat, donc du coup on était assez confiante. On a quand même voulu en implanter deux dans l'embryon, parce que
qu'on voulait que ça marche.
Nous on voulait des jumeaux à tout prix, mais bon, finalement on était trop pris.
Oui, d'accord. Vous étiez partie dans les multiples quand même.
Oui, voilà, c'est ça. On s'était dit bon, dans le meilleur des cas, il y en a deux, et dans le pire des cas, bon, bah, ça ne marche pas. Mais on s'est dit quand même, il y a quand même plus de chances qu'il y en ait deux qui s'implantent. Et moi qui ai toujours voulu avoir des jumeaux, je dis bon bah c'est bon quoi, on y va. On a négocié, mais on a réussi à les avoir.
Ouais, je tiens à dire que...
Mais c'est pas des jumeaux.
Non, c'est ça, mais je tiens à dire que la clinique, elle n'était pas du tout pour qu'on mette deux embryons.
Ouais.
Trois fois, ils nous ont dit.
Ouais, je sais qu'ils mettent en garde.
Oui, c'est ça. Et franchement, pour ça, on ne peut pas leur reprocher d'avoir une grossesse multiple parce que vraiment, ils sont. Ouais, c'est ultra sécurisé et ils font tout pour que la patiente, sa grossesse se passe bien derrière. Quoi. Donc,
Quatre fois.
Ouais, voilà. Parce que bon, on va parler de la grossesse triple, mais bon, c'est un chemin de croix quand
non,
même.
Non, c'est clair, non, c'est vraiment pas simple. Hein, donc,
Quatre fois, ils sont revenus à la charge en nous disant, mais non, vous êtes sûr, non, on n'en veut qu'un, on veut que ça marche. Vos embryons sont très jolis, ça va marcher. Oui, mais non, j'en veux deux.
Et donc, ils ont cédé.
Bah, malheureusement, ils n'ont pas trop le choix, en fait. À partir du moment, je pense, où tu payes. Bah ouais, et que t'as déjà passé 3 IAD qui n'ont pas marché.
Après, si, ils avaient le choix. Typiquement, une lentille, si t'avais une contre-indication médicale, pour, enfin, il y a certains, pour être certains patients qui ont d'autres, ouais, pas des contraintes, mais en gros, ouais, des contre-indications. Des pathologies, ils auraient clairement dit non. Là, en gros, bah, tous les feux étaient au vert et c'est notre choix et c'est nous qui prenons le risque et ils ont respecté, quoi.
Tout ce qui est surpoids, hypertension, diabète, choses comme ça, et bah, ça fait pas partie.
Et est-ce qu'ils vous ont informé sur le risque d'hypermultiple?
Non. Jamais.
Ouais. Après, je pense qu'ils ont... Enfin, voilà, c'est tellement rare. Mais bon. Ouais.
Surtout qu'en plus, en poussant à J+5, en blastocyste, il y a encore moins de chance.
Oui. Bah, logiquement.
Donc, du coup, non, pas du tout. Non.
C'est clair. Et du coup, c'était sûr que tu aurais une paire de vrais, quoi, enfin, dans l'histoire, parce que quand ils se divisent à ce stade-là...
Ouais, c'est pas défaut.
On est d'accord. Non, mais c'est assez fou. Hein. Moi, je sais que c'est pareil. Il m'avait alerté sur le risque de multiple si je passais sur une FIV. Il m'avait alerté sur le risque de multiple sur ma première insémination parce que j'avais surréagi à la stimulation. Ouais. Donc, pour ma grande, ils m'ont dit il y a de fortes chances qu'il y ait des multiples. Mais pour les triplés, ils n'ont pas stimulé et ils m'ont dit il y en aura qu'un, quoi.
La preuve.
Ah, mais ils ne m'ont pas cru hein, quand je les ai appelés et que je leur ai dit que c'était des triplés. Ils m'ont jamais cru. Hein. Il a fallu que je leur envoie une copie de l'échographie. Bref, c'est pas mon histoire qu'on raconte aujourd'hui. Et donc, ils implantent les deux. Est-ce que toi, tu as un doute sur le fait que ça ait pris, pas pris? Enfin, comment ça se passe?
Alors, par rapport aux inséminations, j'ai pas eu du tout les mêmes. Alors, pas le même traitement déjà et pas les mêmes symptômes. C'est-à-dire que la progestérone, on la commence normalement juste après l'insémination. Moi, je crois que je l'ai commencé peut-être un petit peu plus tôt au moment du transfert. Et j'ai senti en fait les embryons s'implanter. Alors que d'habitude, j'avais tous les symptômes de grossesse, le gros ventre, les nausées, enfin tout qui allait bien, alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Merci la progestérone. Et là, du coup, bah voilà, pas plus que ça. Par contre, j'ai eu mal à l'utérus. J'ai senti, voilà, comme des douleurs de règles. Sur le lendemain du transfert, puis le surlendemain. J'ai dit, ah tiens, bon, du coup, bah bien contente, j'attendais que ça. mais voilà, c'est la seule chose que j'ai ressentie, et après pas plus de mots que ça. La progestérone n'a pas, enfin, plus réagi par rapport aux inséminations que j'avais eues avant.
D'accord. Et du coup, t'es beaucoup plus suivie sur une FIV, donc je pense que t'as eu, bon, déjà t'as fait ton test de grossesse pour commencer.
Eh ben non. Et ben non, parce qu'en fait, on a été voir, je sais plus pourquoi, parce qu'on a été voir le gynéco.
C'est pour ton arrêt de travail.
Ah oui, pour moi, oui, bah ouais, c'est ça, pour mon arrêt de travail. Et du coup, il a de suite voulu donc me faire la prise de sang, il a de suite voulu faire une échographie. Je me suis dit, ah, mais c'est un peu tôt. Enfin, ça faisait vraiment, je crois que ça faisait moins d'une semaine de toute façon. Ça devait faire peut-être 5 jours qu'on avait fait le transfert. Donc, bon, bah, toute contente, allez hop, on va faire l'écho et tout ça. Et là, rien. Bon, bah. Ok, là, on était un peu déçus, mais en même temps, c'était trop tôt. Et donc, il a dit, vous faites, dans 3 jours, je crois, vous faites la prise de sang. Bon, bah, ok. Puis bon, j'y croyais pas trop, en fait. Et au moment de recevoir la prise de sang, j'avais un taux à 300 et des brouettes. Et là, on se dit, ouais, c'est trop bien, ça a marché. Mais bon, on s'emballe pas trop quand même. Il faut voir que la grossesse soit évolutive. Donc, il faut vraiment attendre la deuxième prise de sang. Et ben, la deuxième prise de sang, bingo, je sais plus à combien, on était presque 1000, je crois, un truc comme ça. Un truc de fou.
Ouais, donc là, t'avais pas trop de doutes sur les multiples, quand même.
Ouais, non, c'est ça. Bah, on s'était dit qu'il y en avait deux.
Ouais, voilà, qu'il y ait des jumeaux.
Mais jamais trois.
Oui, mais non, mais on se dit pas trois, de toute manière.
Et puis,
c'est pas quelque chose qu'on envisage.
Juste pour la photo, on a voulu faire le test de grossesse. Parce qu'on savait qu'il était positif.
Oui, voilà, c'est ça. Là, je sais, c'est bon,
ça,
je peux le faire.
Pas, ouais.
J'aurais pas de désillusion.
On a fait ça comme ça.
Ou alors, c'est qu'il est vraiment mauvais. Hein. D'accord. Et du coup, bon, vous avez refait une écho rapidement ou pas dans le cadre d'une FIV? Je crois que vous êtes suivi vachement plus fréquemment.
Alors, au bout de 2 semaines, du coup, on a fait l'échographie, je crois. Ça faisait... Ou 3 semaines post-transfert.
3 semaines post-transfert, ouais. Parce que la clinique, elle veut justement ça. Et notre gynéco nous avait dit, de toute façon, il faut attendre 3 semaines parce que sinon, on verra rien. Donc...
Oui, mais c'est
donc
clair.
On prend notre rendez-vous, on fait donc toute contente, on fait l'échographie, et puis donc, il met la sonde, et puis là direct, je vois des poches noires. Donc là, waouh, trop bien, ça a marché. Et puis là, il passe et il regarde, il fait, ah, il y en a deux. Et en fait, on voyait une grosse bulle noire avec 2 petites bulles dedans. Et puis là, je réfléchis, je dis, mais c'est pas possible. Normalement, on doit avoir 2 poches différentes. Et en fait, donc, il continue à passer tout ça, puis on voyait bien 2 poches différentes. Et puis là, il regarde, et puis là, je regarde Noémie, je vais, oh, il y en a 3. Et il me dit, non, attendez, il y en a pas 3, ça peut être un artefact. Donc, un artefact, c'est-à-dire que c'est une image double, en fait, à l'utérus et tout ça. Et puis, il continue, il passe. Puis je dis, non, c'est pas possible. Je dis, il y en a forcément 3, il y a une grosse poche avec 2 bulles, il y a une petite poche avec 1 bulle. Donc, c'est pas un artefact, l'autre bulle. Enfin, c'est bien le deuxième embryon. Et puis, il est resté super longtemps à regarder l'échographie, à essayer de voir dans tous les sens que ce soit un artefact ou pas. Et non, c'était pas un artefact. Il y en avait bien 3.
Il y en avait bien trois. Comme le groupe Facebook.
Donc, à la fin de la consultation, il nous a quand même dit qu'il la voyait bien arriver au bout, cette grossesse, parce que...
Il a pas dit ça de suite.
Ah, waouh.
Tu crois?
Non, il a pas dit ça de suite. Il a dit, on va se revoir toutes les semaines ou tous les 15 jours pour pouvoir suivre ça. Mm. Et c'est au bout peut-être 1 ou 2 mois qu'il a dit qu'il a, ah si, je te garantis. Non, c'est pas si, non. Parce que justement, il a dit que, il y avait pas de saignement, tout se passait bien et que justement, pour lui, il la voyait bien arriver.
À terme.
Si, à partir du moment où il nous a transféré au centre hospitalier qui s'occupait plus de nous, il a dit qu'il se faisait, non, je t'assure. Non.
Et il vous a transféré au centre hospitalier seulement au bout de 1 mois?
Même un peu plus.
Non, un peu plus, je crois.
3 mois, je crois. Enfin, ouais, c'est ça, 3 mois. Parce que c'est la T3, la T1 que j'ai fait à Lyon. Donc oui, au début, c'est lui qui l'a suivi. Ouais.
Ah ouais? Et est-ce que il a évoqué avec vous, parce que moi, c'est encore douloureux pour moi, la réduction?
Non. En fait, il a jamais évoqué parce qu'il sait que, ça faisait longtemps qu'on essayait d'avoir des enfants, que pour nous, c'était magnifique de se dire que ça y est, ça a enfin fonctionné. Et il voyait bien qu'on était un couple soudé, qu'on avait mis 2 embryons, donc on voulait forcément avoir au moins 2 bébés. Mmh. Et que, bon, une réduction embryonnaire, qui est-ce qu'on élimine en premier? C'est les jumeaux. C'était un truc qui était impensable pour nous. Enfin, lui, ce gynéco, il en a jamais parlé. Pourtant, c'est un vieux gynécologue. Franchement, je pense qu'il part sur la retraite. Il a au moins 70 ans. Mais il a toujours été hyper bienveillant. Il a vraiment au top du top, quoi. Enfin, quand on va le voir, on le remercie d'avoir été aussi professionnel avec nous et, Ouais, aussi délicat, parce que jamais une fois il a évoqué ça.
Non.
Franchement, jamais.
Ah ouais, c'est fou.
Et on lui a posé la question quand on nous a proposé justement la réduction embryonnaire. Puis j'avais regardé des reportages aussi. Et justement, il parlait de tripler et il parlait de cette réduction embryonnaire. Donc, je l'ai un peu appris à la télé, en fait. Mmh. Et en fait, quand on lui a posé la question, il nous a dit non, mais moi, en gros, vous avez jamais évoqué le fait que vous ne les vouliez pas. Et en fait, c'était tellement beau, votre histoire. Enfin, c'est tellement beau, votre histoire, que je voulais pas le faire.
Wow.
Enfin, en gros, il en a jamais parlé, quoi.
Nous, c'est l'hôpital qui nous l'a évoqué, hein, parce qu'on a été de suite orientés vers l'hôpital. Et c'est eux. Mais eux, ils ont obligation de le faire.
Ouais.
Oui, par contre, à l'hôpital, il y a un gynécologue pas très délicat qui a dit, mais on vous a jamais parlé de ça, parce que bon, ça vous aurait évité des problèmes, hein.
Ouais, voilà.
Ça aurait été beaucoup plus simple.
Mmh. Les discours d'hosto, c'est pas les mêmes que ceux des gynécos, hein.
Ah, c'est sûr.
Et alors, cette grossesse triple, enfin, comment déjà vous avez réagi quand vous avez acté le fait qu'il y en avait trois?
Alors, la première réaction de Noémie, c'était, je suis pas prête.
Je pense que en même temps, personne n'est prêt pour des triplés.
Ouais. Moi, j'étais euphorique, mais un peu angoissée. C'est compliqué.
Déjà, je pense que de se dire que ça y est, on va devenir parents, enfin, c'est magique et en même temps, ça fait peur parce que jusqu'à présent, on n'a que toutes les deux à s'occuper, donc c'est facile, hein. On est des adultes, on sait de quoi on a besoin, enfin, voilà. Ouais. Mais là, de se dire, ouais, ça y est, ça a marché, on va enfin devenir parents. Et là, de se dire trois. Et en fait, on pense, ben, déjà en termes de logistique, hein, comment on va s'organiser.
C'est ça.
Et puis après, ouais, c'est ça, comment ça va se passer. Et puis après, quand on en parle à nos proches aussi, c'est, ou à des personnes plus délicates, c'est, bah, attendez un peu, parce que bon, on sait jamais. Du coup, ben, en fait, on est toujours partagé entre, ben, on est super joyeuse, et puis, putain, aussi bien, on va pas y arriver, quoi, donc,
Il peut arriver quelque chose, et en fait, on peut les perdre aussi, quoi.
Après, je crois que ça, c'est acquis dans la conscience populaire, on va dire, que les grossesses hyper multiples, c'est très fragile.
Mmh. Ça, c'est sûr.
Mmh. Et toi, est-ce qu'on t'avait alerté, enfin, vous, de toute manière, est-ce qu'on vous avait alerté, votre gynéco, est-ce qu'il vous avait parlé de la difficulté de la grossesse et de la mener à terme, on va dire, de tripler ou pas?
Si, si, quand même, le gynécologue nous en a parlé qu'il fallait faire super attention, enfin, qu'interdit de prendre la route, typiquement interdit de prendre la route, que c'était une grossesse qu'elle allait passer à l'IT, et que bah, dans tous les cas, elle serait suivie par le centre hospitalier à Valence. On habite dans la Drôme, donc un centre hospitalier qui est assez proche de nous, de type 2, par contre. Si on avait un problème, il fallait pas hésiter, il fallait de suite aller au centre hospitalier. Enfin, il a vraiment été très prévoyant. Et après, quand on est arrivé, enfin, qu'on a téléphoné pour avoir rendez-vous dans le centre hospitalier, ils nous ont dit
non,
vous allez dans le centre hospitalier de niveau 3. C'est quoi, 3 ?
Ouais, niveau 3.
Niveau 3. Ouais. De suite, on a été renvoyé chez eux.
Ouais, ouais.
Donc, à 1h15 de route de la maison, quoi. Donc là, c'était un peu la douche froide.
Ouais, tu m'étonnes. Surtout que, bon, on te dit, faut pas faire de route.
Ouais, non, mais c'est ça, en fait.
Voilà, donc comment je fais?
C'est ça.
Et puis alors là, la moindre hospitalisation, t'y restes, quoi. Enfin, tu vois, tu repars pas à la maison, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un peu le truc. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on a été suivis là-bas et on a fait, donc on avait des échographies tous les 15 jours pour suivre tout ça. Et vraiment, enfin, ça s'est super bien passé. Ils ont
Parce
été
que du coup, vos monos, ils étaient mono-mono ou ils étaient... alors, je vais préciser ma question parce que c'est pas clair pour tout le monde, surtout pour les non-parents de multiples. Donc, quand on dit mono-mono, ça veut dire une poche et un placenta pour les deux. Et après, il est possible qu'il y ait soit une poche et deux placentas, soit deux poches et un placenta, soit deux poches de placenta, ce qui était, moi, mon cas.
Ah oui.
Oui.
Ah non, on avait, c'était une monobie, donc on avait une poche et deux... Et une poche, un placenta...
Non, deux poches.
Oui, il y avait la membrane de séparation.
Deux poches, un placenta.
Deux poches, un placenta. Donc, vous aviez le risque du STT.
C'est ça.
Donc, le STT, c'est le syndrome transfuseur-transfusé qui touche essentiellement, d'ailleurs, qui ne touche que les vrais jumeaux, ce qu'on appelle vrais jumeaux. Mmh. Et donc, le principe, c'est que les sangs se mélangent, en fait. Enfin, qu'il y en ait un qui soit plus alimenté que l'autre ou qu'il y en ait un qui alimente l'autre. Donc, c'est plus compliqué.
C'est ça.
Donc, c'est un vrai risque pour la grossesse.
Ça a été un peu notre grande erreur, hein, de toute façon.
Après, on n'a pas eu ce syndrome-là, mais il y a eu un problème sur un des jumeaux quand même. Mmh. Il y avait un gros retard de croissance qui s'est vu peut-être à partir de quoi, du quatrième mois.
Ouais,
à partir du quatrième mois où il y avait des échos tous les 15 jours aussi pour suivre ça. Mmh. Parce qu'il avait un Doppler ombilical où en gros, le sang ne circulait pas tout le temps en fait en continu. Ouais. Donc, il faisait qu'il était moins alimenté que son frère. Mmh. Et donc, il avait un retard de croissance et qui se creusait. Il fallait bien suivre.
Oui, 4 mois, c'est tôt.
Toutes les semaines, on y allait.
Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc là, ils vous ont suivi de façon encore plus poussée. Et quel a été le discours? Parce que je suppose qu'ils vont nous poser des échéances.
Ah, ça a été compliqué, là, ça a été la douche froide.
En fait, jusqu'à présent, tout se passait bien. On avait ces bébés, c'est-à-dire Gabin, qui était toujours plus petit que ses frères. Mais en gros, c'était pas grave en soi, parce que comme on nous a dit, il y a forcément un bébé qui peut être plus petit, et déjà des triplés de base censés être plus petits. Mmh. Celui qui était tout seul dans le BBC, Justin, lui, ça allait très bien. Franchement, il avait même la courbe de poids d'un bébé seul, on va dire. Et donc Gabin, il fallait le suivre de très près. Et en fait, ça s'est pas vu de suite. Ça s'est vu à partir du mois de novembre, je pense. Donc c'est ça, à 4 mois. Et en fait, ça a été la douche froide, parce que jusqu'à présent, tout se passait bien. Et c'est une des responsables, justement, de l'hôpital qui a fait l'échographie et qui a été super dur dans ses propos. Mmh. Enfin, en gros, elle nous a fait comprendre que, si ça allait pas, il fallait couper le cordon. Enfin, plein de trucs comme ça, c'était compliqué, quoi. Enfin, nous, on était dans notre bulle. Ouais, dans notre bulle de se dire, nos bébés vont bien. Et là, d'un coup, on se dit, c'est pas possible de passer de 3 à 2, voire à 1. Par contre, ce que la personne a quand même fait de bien, c'est qu'elle a de suite transmis notre dossier au grand centre hospitalier de niveau 3. Elle a même appelé son collègue en direct pour présenter notre cas. Mm-hmm. Et lui, il nous a reçu 3 jours après. Mm-hmm. Et là, il nous a quand même rassuré en disant que de toute façon, il n'y avait rien à faire. Typiquement, il fallait laisser faire les choses, entre guillemets, laisser faire la nature, quoi.
Oui. Il n'y avait pas d'opération de possible.
Ouais.
Parce qu'en fait, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que justement, si Gabin venait à s'éteindre, il embarquait son frère avec.
Risque avec les
Donc
gens,
c'était en fait à surveiller de très près, parce que sinon, on pouvait perdre Louis avec. Et encore par malchance, si les jumeaux s'éteignaient, on peut aussi déclencher un accouchement prématuré. Donc on pouvait perdre tout le monde, en fait.
Oui.
Donc c'est vrai que là, ça a été très très dur. Et elle nous a dit. Donc nous, au début, on pensait un syndrome justement STT. On avait peur de ça, vu qu'il y en avait un qui était plus petit que l'autre. Mais c'est vrai que le liquide amniotique était toujours de la même taille, de la même quantité. Mmh. Et du coup, quand on est parti sur Lyon, c'est là où il a commencé à nous dire, enfin à nous rassurer, en nous disant que de toute façon, il n'y avait pas d'opération de prévu, que c'était pas possible, qu'il fallait de toute façon le suivre. Mais ça avait l'air quand même de pas trop mal se passer. Il avait l'air d'être stable dans son instabilité, en fait.
D'accord.
Donc,
c'était à 4 mois, donc ça fait quoi, 20 semaines, 21 semaines, quelque chose comme ça?
Oh non, avant.
Ouais, j'aurais dit même 18 semaines.
Ouais, parce que
c'était en décembre. Mmh. Donc,
D'accord. Oui, donc vous étiez encore assez loin de la viabilité, si jamais.
Ah, complètement.
C'est ça, exactement.
C'est ça. On vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant à chaque échographie, est-ce qu'il va bien? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que ça va être bien, quoi? Même après, pour essayer de se projeter, parce que je savais donc forcément que j'allais être hospitalisée à partir de 25 semaines.
D'accord.
Ça, c'est leur protocole à eux sur l'hôpital de type 3. C'est qu'à partir de 25 semaines, ils hospitalisent systématiquement.
Les grossesses
jusqu'à la fin.
Ouais. D'accord.
Et du coup, donc, c'était un peu l'échéance, entre guillemets, en se disant que de toute façon, si j'arrive à 25 semaines, ils sont viables.
Oui.
Théoriquement.
Théoriquement.
Ils arrivent à les sauver, en fait. Avant, ils les réaniment pas. Après, ils essayent de tout faire pour les sauver. Mais du coup, entre-temps, il faut quand même vivre. Il faut quand même se dire que si je suis hospitalisée à 25 semaines, il faut réussir à faire ma valise, à ce que tout soit prêt pour quand les bébés vont revenir. Donc on a quand même essayé de se projeter. On s'est projeté avec les 3 bébés en se disant que les 3 bébés allaient réussir. Donc on a monté leur chambre, on a tout fait pour qu'ils soient là tous les 3, quoi.
Puis on leur parlait.
Et on leur parlait.
Et du coup, vous avez passé les échéances petit à petit en le maintenant stable ou vous avez eu d'autres frayeurs?
Alors non, on a eu même des bonnes nouvelles parce que ça allait mieux.
Donc ça peut aller mieux.
Ouais.
En fait, ça peut aller mieux parce qu'on se dit que c'est tout dans la tête et que quand on veut quelque chose, on l'aura. Enfin, comme on disait, on a parlé tous les jours, on leur parlait à travers le ventre. Allez, accroche-toi, nous on t'attend. On s'est renseigné aussi sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on pouvait donner pour améliorer ce flux sanguin justement qui était manquant. Mm-hmm. Un truc tout bête, des myrtilles.
Ouais.
Donc Solène a fait des cures de myrtilles.
Ouais, génial.
Voilà. Tout ce qui est fruits noirs, c'est super bon justement. Et en fait, j'ai mangé des myrtilles.
Je n'en peux plus des myrtilles.
C'est ça. J'ai repris aussi mes compléments alimentaires que j'avais, que je prenais au tout début de grossesse. Mm-hmm. Et justement, à un moment donné, à l'échographie, le gynéco nous dit « écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais ça se voit quasiment plus, il a quasiment plus de problèmes. » Donc il m'a dit « continuez comme ça ». Donc là, j'ai mangé des myrtilles.
sous toutes leurs formes.
Sur toutes les formes.
Après, ouais, il n'y avait plus de problème, on va dire, sur le Doppler ombilical. Ouais. Par contre, il n'avait pas rattrapé son retard de croissance et comme il nous a dit, il ne le rattrapera pas.
Oui.
Ça, c'est sûr que dans le ventre, il ne pourra jamais. Après, c'est un retard qu'il rattrapera petit à petit. Hein. Quand on le voit, même là, gamin, on sait que c'est le plus petit, il n'y a pas photo. Hein. Ouais. Après, en grandissant, bah, je pense que ça ne se verra plus. Mais...
Non, ça se tassera.
Ouais. Mais bon, il est là.
Il est là, il va bien.
Oui, voilà, c'est bien le principal. Et alors, vous avez accouché, enfin, tu as accouché, mais bon, vous avez accouché, à quel terme ?
Alors, donc j'étais hospitalisée donc, à 25 semaines, justement, j'avais beaucoup de contractions.
Déjà, ouais.
Mon col s'était bien réduit, donc en fait, il était temps de me faire hospitaliser. Là, ils ont commencé à nous faire un peu peur en nous disant que je pouvais accoucher rapidement. Donc, ils nous ont fait les injections de cortico. Ils m'ont mis aussi donc sous tractocile pour arrêter les contractions, pour essayer de garder les bébés le plus longtemps possible au chaud, et tout en surveillant justement GABA, voir si tout allait bien. Donc à partir de ce moment-là, je suis restée couchée et couchée dans mon lit, en faisant donc des échographies toujours toutes les semaines, des Doppler tous les jours, où justement on surveille voilà, le cœur des trois bébés. Et donc au niveau des Doppler donc externe, enfin ce que j'appelle Doppler externe, c'est pas au moment de l'échographie, le cœur allait bien, tout allait bien jusqu'à la fin.
C'est des monitorings plutôt ça.
Ah oui, les monitorings, voilà.
Trois fois par jour.
Ouais. On surveillait voilà les Doppler donc aux échographies toutes les semaines, et à un moment donné, on commence à voir justement cette fameuse alimentation de Gabin qui commençait à être de moins en moins bonne. Mmh. Les poids évoluaient bien, ils étaient bien. Mais voilà, ça commençait à pas être tip-top. Donc là, elle m'a dit, on va faire des échographies deux fois par semaine. Et au moment où on a fait donc cette fameuse échographie, c'était quoi, trois jours, quatre jours plus tard ? Mm. Je l'avais eu vendredi, on l'a refaite le lundi. Et là, elle me dit, ça se dégrade. Donc c'est bon, c'est le moment, il faut vous faire accoucher.
C'était pas une urgence en soi, parce que t'as fait l'échographie le lundi après-midi. Mm. Donc, il fallait programmer la césarienne pour le lendemain. Ça aurait été une urgence, tu l'aurais fait, je pense, dans la foulée.
Oui, bien sûr. Mais ils n'aiment pas faire
le mardi 23 mars. Donc, voilà, c'était césarienne programmée. Après, encore un coup de stress pour nous parce qu'on était hospitalisés dans un certain établissement et en fait, ils ne savaient pas s'ils avaient la place pour la césarienne le lendemain.
Pour trois bébés en néonates.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, en fait, jusqu'au lendemain matin, 9h du matin, on vient nous voir et on nous dit, c'est bon, vous restez ici, vous pouvez, la césarienne est programmée pour 14h. Ouais. En fait, potentiellement, on aurait pu être transféré ailleurs. Et là, c'était le gros stress parce que, on avait aussi pris nos marques, hein. Ça fait 6 semaines que Solène était à l'hôpital. Typiquement, moi, en plus, que je montais tous les week-ends la voir, on prend nos habitudes, quoi. Une petite routine aussi, qui s'installe.
On connaît tout le monde.
Et du coup, de se dire, on va aller. Ouais, presque, c'était presque ça. Le fait de se dire, on va atterrir où, dans quel service, avec d'autres personnes, c'était un coup de stress, quoi. Donc là aussi, ça a été un gros moment, quoi.
C'est clair qu'il y a aussi cette problématique-là. Enfin, il y a cette problématique-là qui est hyper stressante, et il y a la problématique de savoir, parce qu'ils peuvent accoucher sur un hôpital et dispatcher les bébés après. Et là, c'est pas ça. La même.
Ouais, c'était pas... C'est ce qu'on voulait pas.
Oui, non, mais on veut tout pas, mais quand, on n'a pas la main là-dessus, on a zéro maîtrise de tout ce qui se passe, on n'a aucune maîtrise, quoi.
Rien du tout. Et donc, on était à 31 plus 6.
Et donc, 31 plus 6, qui est un très beau terme pour des triplés, surtout dans le contexte.
Ouais, c'est ça. Chaque jour gagné est un jour gagné.
Voilà, exactement. Et puis bon, pour nous les mamans, c'est quand même vraiment très inconfortable, surtout sur la fin. Donc, franchement, c'est un beau terme.
Oui. Le ventre commençait vraiment à faire mal. Dormir, on n'en parle même pas. Hein, je dormais très mal. Beaucoup de contractions. J'étais tout le temps branchée de toute façon sous tractocile. J'ai eu pas loin de 11 cures de tractocile.
Ah ouais, c'est énorme. Ouais, j'en ai eu beaucoup aussi.
C'est pas mal. Je réagissais bien. Ça me faisait du bien. C'était magique. Mais voilà, ouais, la fin est très très dure. Et puis, juste avant l'échographie, j'avais dit à Noémie, de toute façon, je sens que ça va être l'heure. Je l'ai senti. Et bingo.
C'est marrant, ça.
Je lui ai dit, écoute, quand elle est partie le dimanche, je dis, à mon avis, on se revoit cette semaine avant vendredi. Et bingo, lundi, elle est revenue.
Lundi soir. Moi, c'est pareil. Hein. C'est la dernière écho où, je sais pas, ils m'ont dit, tout va bien. J'ai tout lâché, je crois.
Ah paf.
C'était bon, quoi. C'est ça. Dans la foulée, hop, c'est passé.
Non,
c'est, Très beau terme, en tout cas, bravo. Je ne peux pas dire le contraire. Et alors, c'est arrivé parce que c'est pas rien, trois bébés quand même.
Ça fait bizarre. Alors, la césarienne, c'est super bien passé. Vraiment, je crois que c'est même le meilleur moment de toute la grossesse que j'ai eue.
Ben, on peut dire que l'avant césarienne, on n'était pas très fiers parce qu'on nous a dit que ben c'est pas sûr que je puisse assister. Ouais. Et typiquement, oh là là. Avec contexte Covid, ben non, c'était pas possible. Donc en fait, j'attendais dans le couloir. Solène est partie sur son brancard et moi, j'attendais dans le couloir. J'attendais. Et puis finalement, il y a une dame qui vient me chercher. Noémie, oui, c'est moi. Ben, c'est bon, venez vous habiller, vous pouvez assister. Et là, gros soulagement. Franchement,
ouais, c'est clair. Donc, ouais. Mais pour vous deux, hein, je pense, parce que c'est chaud hein, d'être tout seul dans le bloc.
Ah ouais, quand il commence à m'installer, à me mettre sur cette table, j'étais en croix.
C'est ça.
Ça fait peur. Et puis j'avais tellement peur d'avoir mal, de sentir quelque chose. Ouais. Et en fait, vu que c'était une césarienne programmée, c'était pas non plus dans l'urgence. Il fallait les faire sortir, mais il n'y avait pas d'urgence ultime. Ça a pu être fait correctement, c'est-à-dire qu'ils ont bien attendu que je sois endormie correctement pour pouvoir justement commencer à ouvrir. Donc j'ai absolument rien senti. Les gens étaient mais super gentils, toujours à côté de nous et tout ça. Jusqu'au premier qui sort et là on l'entend pleurer. Et là c'était trop beau.
Ouais, ils ont pleuré à 31 plus 6, ouais. C'est ouais. Chouette. Moi ils ont pas du tout pleuré, je les ai pas entendus.
C'est vrai. Ah ouais, les trois, on a entendu pleurer les trois et
crier, c'est pas pleurer, mais le premier cri, on s'est dit ouf, déjà, ils s'en sortent hors du ventre, quoi. Enfin, c'était notre seule crainte, quoi, mais qu'ils soient sans respiration et qu'il n'y ait rien, en fait, c'est surtout ça. Mm.
Mais oui, mais forcément, en plus, comme on te dit que les préma, je suppose que vous aviez eu un entretien avec le pédiatre avant qui vous a expliqué à quel terme ils arrivaient et qu'est-ce qui serait mis en place. Mm. C'est toujours inquiétant. Hein.
Ah, c'est horrible. Comment ils présentent ça
Puis juste avant que Solène, pendant qu'il préparait Solène, moi j'attendais dans la pièce à côté parce que je pouvais pas voir forcément. Mm. Il y avait quatre couveuses, dont trois qui étaient bien préparées, et en fait il y avait une équipe médicale qui arrivait. Il y avait deux pédiatres par bébé, donc plus des auxiliaires, plus des puéricultrices, et sans mentir, je crois que c'était une quinzaine de personnes. Et là on s'est dit,
ah oui, wow, c'est énorme.
15 personnes pour trois bébés.
Oui.
Comment ils, en fait, c'était plus à Karen, dans quel état ils vont sortir, quoi. Enfin,
c'est en tout cas, ouais, c'est clair que l'arrivée de trois bébés, c'est toujours hyper, enfin, c'est impressionnant pour tout le monde. Je pense autant pour le personnel médical que pour nous. Mm. Parce que c'est quand même pas fréquent.
Ouais.
Et vos petits bouchons, donc, du coup, derrière, comment ça s'est passé pour eux? Ils ont atterri facilement ou il a fallu un peu les stimuler?
Eh ben, ça, on l'a su qu'après, parce que forcément, une fois que tout le monde est sorti, que tout le monde était stable, je sais pas combien de temps ça a pris, parce que quand c'est comme ça, je sais pas dire le temps. Franchement, je sais pas. Par contre, ils m'ont dit, la deuxième maman, je crois qu'ils m'avaient appelé comme ça, vous pouvez venir pour voir vos bébés. Solène, c'était pas possible, parce qu'elle était en train d'être recousue, et puis, typiquement, elle pouvait pas se lever, hein, puisqu'elle était toute endormie. Et du coup, là, je les ai vus, les bébés. Ils étaient tout entourés de plastique, ils avaient une poche autour de la tête de plastique aussi. En fait, j'étais là comme ça, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, ils sont stables, enfin, tout le monde va bien, quoi. Et en fait, on reste en voix. Typiquement, puis en plus, il y a tout le corps médical qui vous regarde. Donc, c'était juste très, très impressionnant.
C'est là que tu prends conscience du truc, en fait. Parce qu'avant, c'est quand même abstrait, hein.
Tout à fait. Et en fait, là, on se dit, ah oui, ils sont vraiment tout petits. En même temps, c'était bébé. Et ouais, on sait pas quoi faire. Puis il y en a trois, donc on va voir les trois comme ça. Enfin, du coup, une fois qu'ils sont ça, ils me disent, on va les monter dans leur couveuse. Est-ce que ça vous dit d'en prendre un sur vous? Je dis, oui, avec plaisir. Donc, ils ont mis ceux qui étaient censés être les jumeaux, donc c'est-à-dire Justin et Gabin dans une couveuse. Et moi, j'avais Louis sur moi, donc sur une chaise, forcément. J'ai pas eu à marcher. Et là, ils nous ont monté en néonate. Qu'ils ont mis Gabin, qui était tout petit, par contre, en réanimation, en service à côté. Et Justin et Louis étaient en néonat. Donc là, ils ont préparé les couveuses, ont installé... Ils sont intensifs. Et donc là, ils ont préparé les couveuses, ils les ont installées. Puis moi, je naviguais, parce qu'entre les deux pièces, et en fait, c'est nos bébés. C'est pas à nous à nous en occuper, en fait. Et c'est ça qui est hyper déstabilisant.
Oui.
Et ça, ça rend très vite compte qu'en fait, c'est pas tes bébés, quoi. Enfin, si, c'est les tiens, mais pour l'instant, ils appartiennent au corps médical. Et en fait, toi, t'es impuissante face à ça, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est très, très bizarre, quoi. Franchement.
C'est particulière, la néonate.
Ouais.
Après, tout le personnel était bienveillant.
Je veux revenir juste au moment de l'accouchement, parce que tout le monde me pose la question à moi, donc je vais vous la poser à vous. Comment vous avez fait le choix des prénoms ?
Alors, nous, on avait déjà choisi depuis un bon moment les prénoms, sauf que 2 jours avant, on avait changé le nom de Justin. En fait, on était censé avoir donc les jumeaux, c'était Justin et Gabin. Enfin, c'était Martin et Gabin. Et Louis, le tout seul.
D'accord.
Et au dernier moment, 2 jours avant, j'ai dit « Ah, Justin, j'aime bien et tout. » Et puis, on s'est mis d'accord. « Allez, hop, c'est bon. Ça sera pas Martin, ça sera Justin. » Donc, ça se terminait par un en plus aussi. Et puis, on aimait bien.
Et le jour de l'accouchement, en fait, c'est les sages-femmes qui sont venues nous voir avant la césarienne en nous demandant, ben, du coup, il faudrait qu'on ait les prénoms pour... Parce qu'il y a besoin des prénoms, comme ça, on sait d'office comment ils s'appellent. Alors certains, quand on a raconté ça à certaines personnes, ils nous ont dit, bah non, moi, quand on m'a demandé ça, c'était hors de question, je donnais pas avant qu'ils soient nés. Moi, ça m'a pas du tout posé problème. Non. Typiquement, ça m'est complètement égal. Et du coup, ben, on nous a demandé comment ils s'appelaient, est-ce que c'était le premier sorti qui prenait ce prénom, est-ce qu'il y avait un ordre à respecter. Et c'est de là qu'on a dit, ben oui, celui qui est le jumeau le plus petit, ce sera Gabin. Son jumeau, ce sera Justin, et le tout seul, ce sera Louis. Voilà. Donc, c'était censé être comme ça, ils ont bien respecté. Et, grosse anecdote quand même, au bout de 2 jours, qu'ils étaient dans leur couveuse, on s'est dit, c'est quand même bizarre, parce que Justin, il ressemble pas à son jumeau. Et puis, il est beaucoup plus costaud que son jumeau. Ses cheveux, ils sont hyper foncés. Ouais. Il y a quelque chose. Du coup, on en parle au corps médical, on leur pose la question. Ils nous disent « Non, non, vous inquiétez pas, on peut pas se tromper, c'est impossible qu'on se trompe, on aurait bien respecté le protocole. » Bon, bah, soit on leur fait confiance. On en parle aussi à une infirmière, elle dit « Ouais, non, non, vous inquiétez pas, si le médecin vous a dit ça, il y a pas de souci, quoi. » Ils leur font le groupe sanguin, parce que ça, c'est obligatoire. Ils font le groupe sanguin.
Et ah ouais demain... Moi, je les ai pas eu. Je les ai toujours pas.
Ah ouais,
ouais. Ouais.
Si, c'est le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas, il y a un test spécifique, justement, qu'ils font.
Ah ouais. Ouais. Je sais pas.
Je sais pas. Écoutez. Enfin bon, voilà.
Et du coup, ils font le groupe sanguin, et puis là, le lendemain, l'infirmière, elle vient nous voir, donc la même qu'on a vue la veille, et elle nous dit, non, c'est l'infirmière ou c'est le médecin qui est venu nous voir? Je sais pas.
Non, c'est les infirmières qui en ont parlé. Et après, il y a le médecin qui est venu, tout penaud.
Ouais, et en fait, tu sais, l'infirmière en disant,
vous avez raison.
Vous avez des doutes, ben, en fait, on a fait le groupe sanguin, et effectivement, Gabin et Louise ont le même groupe sanguin. Et Justin, il a un groupe sanguin différent. Donc, en fait, c'est bien les jumeaux. On est vraiment désolés pour l'erreur. Enfin, si vous voulez changer les prénoms, vous inquiétez pas. On s'occupe de tout. Vous avez le temps de réfléchir aussi plusieurs jours. On comprend. On est vraiment désolés. Et on a au moins eu 3 ou 4 médecins qui sont venus nous voir à intervalles de jours différents, hein, pour nous dire, on est vraiment désolés pour l'erreur. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc, voilà.
Vous êtes au courant. Oui, nous on le savait en fait. Hein. On avait vu que c'était pas les bons.
C'est ça. Donc c'était assez drôle en fait. Ouais. Et puis on n'a pas changé les prénoms parce que Justin c'est Justin, Louis c'est Louis. Enfin, c'était pas possible de les appeler différemment.
En fait, physiquement, on avait l'image qui était associée au nom. Donc peu importe si c'est son jumeau ou pas le jumeau, c'était celui qui était dans cette couveuse là avec les cheveux noirs, un peu plus potelés. En fait, c'est Justin, c'est pas Louis. Donc, voilà. Anecdote des prénoms.
Et puis, je pense que toute votre vie, après, vous auriez eu... Alors là, c'est l'anecdote, mais après, toute votre vie, vous seriez dit, pendant quelques temps, ça a quand même été l'autre, quoi. Enfin, ouais, tu penses tout le temps, quoi. Bon, oui, du coup, c'est pas vous qui avez choisi l'ordre des prénoms, quoi.
Non, c'est eux.
C'est la vie qui a choisi, quoi.
C'est
marrant. Super anecdote.
En fait, ce qui a commencé à nous alerter, c'était les poids. Parce qu'ils ont commencé à nous dire les poids, et on s'est dit, mais c'est bizarre, le jumeau de Gabin. Donc, Gabin, on le savait, il faisait 1,2 kg, on savait que c'était lui. C'était BBA, celui qui avait les problèmes donc de Doppler. Et son jumeau, bizarrement, il faisait 1,9 kg, alors qu'il était plus estimé à 1,5 kg, 1,6 kg. C'est bizarre. Et par contre, l'autre, il fait les 1,5 kg, 1,6 kg. C'est quand même bizarre cette histoire. Bon, on va quand même leur faire confiance, hein. C'est eux qui les ont sortis, c'est pas nous, hein. Et voilà, ça a commencé déjà comme ça.
Dans le style anecdote, nous, ils nous ont garanti, certifié, jusqu'à ce qu'on leur prouve que leur ressemblance était flagrante, qu'il n'y avait pas de vrai jumeau.
D'accord.
C'était forcément 3 poches, 3 placentas. Donc voilà, pour eux, c'était pas possible. Et en fait, moi, j'ai fait mes recherches, donc je sais maintenant que c'est possible. Et quand tu regardes mes enfants, Tu peux pas te louper. Nous, on se trompe tous les jours sur qui est qui. Donc, voilà. Et au départ, on savait pas. Ouais, on se trompe. Au départ, on savait pas qui étaient les vraies jumelles. Et comme eux, en plus, nous certifiaient qu'il y en avait pas, on cherchait pas, tu vois. On ne comprenait pas pourquoi il y en avait trois, mais on cherchait pas plus que ça. Et au bout de 5 jours, mais la révélation, quoi. J'avais 2 bébés sur moi, j'étais là, mais c'est les miroirs, quoi. Oh, et là, je me suis dit, non, mais c'est elle. Alors que pourtant, on pensait que c'était 2 autres. Enfin, bon, bref. Voilà. Et du coup, pour l'anecdote encore, au bout d'1 an, on a envoyé une photo à notre obstétricien en lui disant, vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas des vraies jumelles?
Ah
oui. Et là, je crois que... Enfin, il nous a répondu, bon, ok.
Ah, c'est énorme ce soir.
Non, ça, c'est fou. Et alors, ces petits loulous, du coup, ils ont fait combien de temps de néonat?
Ils ont fait 1 mois et demi de néonat. Alors, on a été transbahutés dans différents hôpitaux. Donc, on est resté 1 semaine en niveau 3. On est resté 3 semaines en niveau 2. Et on est resté 15 jours en niveau 1.
La façon dont... Vous connaissez tous les hôpitaux de la région.
C'est ça.
Puis la façon dont ça s'est passé, en fait, le transfert, on n'était pas du tout prête. Encore une fois, ils nous en avaient pas du tout parlé. Et en fait, l'hôpital au niveau 3, il y a un matin, il y a la pédiatre qui vient nous voir en disant... Ben, en gros, tout va bien, vos bébés pourront être transférés, mais bon, pas aujourd'hui, parce que je crois qu'on a, enfin, je crois que l'hôpital niveau 2, ils sont pas prêts à vous recevoir, il n'y a pas encore place, vu qu'il y en a 3. Et là, on se regarde.
Mais plutôt demain ou après-demain.
Et vous êtes sûr, c'est ok. Et encore, nous, on avait tout prévu pour rester, justement, à l'hôpital niveau 3, donc on s'était dit, au moins pendant 1 mois, donc on s'était renseigné pour prendre un logement là-bas. Et en fait, finalement, non, on allait être rapatrié à 20 minutes de la maison, donc, c'était très bien, mais en fait, on n'était pas prête. Et Justin, c'est le premier qui a été transféré, donc on va dire le mercredi, je crois, chose comme ça.
Mardi.
Bon, c'est pas le mercredi, mais...
Mardi, je dis vendredi, je crois.
Ouais, mardi, et après, ils étaient tous décalés. Et... Donc, à 24 heures d'intervalle, ils ont été transférés. Enfin, voilà, ça aussi, c'était un grand moment, quoi. Donc, Et puis, arrivé à l'hôpital de type 2, en fait, c'est pas du tout le même style d'hôpital. Les soins, c'est pas du tout les mêmes. Là-bas, on était dans un service de soins intensifs, où en fait, il y avait 6 couveuses pour 2 infirmières péricultrices qui s'en occupent H24, avec les scopes, dès que ça sonne, ils viennent voir, enfin, ils sont là à surveiller, donc les scopes, c'est... Enfin, vous savez ce que c'est, mais... voilà, enfin...
Oui, non, mais il faut l'expliquer pour nos auditeurs.
Tout ce qui est fréquence cardiaque, tout ce qui est taux d'oxygène,
ouais, sur tout ça.
Après, la respiration...
Machine qui bip à côté des bébés.
Ouais. Donc c'était vraiment une pièce avec seulement 6 bébés et vraiment 2 infirmières qui les suivent H24. Et là en fait on arrive dans un service où nos 3 bébés sont mis tous les 3 dans la même pièce, donc c'est plutôt rassurant. Ils sont scopés, mais en fait personne les suit, quoi. On a l'impression qu'il y a personne qui les surveille. Les scopes, ils sont dans une pièce à côté où c'est la salle des infirmières, mais il n'y a pas toujours quelqu'un devant un écran, pour être honnête. Même si on dit qu'ils suivent, non, c'est pas vrai. Hein.
Ça sonne, mais c'est pas...
Et en fait, ça sonne, et on se regarde, et on se dit, mais il y a personne qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, quoi. Et dont une infirmière, au bout de 3 jours, qui a été, assez violente avec nous, en disant que, c'était à nous à prendre les devants, c'était à nous à nous occuper de nos bébés, il fallait que, en gros, on demande quand ils ont faim, enfin, que des trucs comme ça, comment on allait s'organiser plus tard, et c'était le soir 20h, donc forcément, 20h, nous, on était fatigués aussi, parce que c'est quand même hyper dur de faire les allers-retours et de rester,
Toute la journée
auprès de ses bébés, parce que ils ont besoin de nous, mais c'est hyper éprouvant, faut être honnête. Être enfermé dans une pièce avec son bébé, qui, au bout d'une semaine, il n'y a aucune interaction, en plus il est branché, il n'était toujours pas, il prenait, c'était une sonde gastrique. Quand on veut lui changer, ne serait-ce que la couche, il faut appeler, parce qu'on peut pas mettre, enfin, on peut pas le débrancher facilement, donc le débrancher, simplement enlever ses câbles. Donc en fait, et ça a été hyper violent, quoi. Enfin, ça a été un atterrissage dans cet hôpital. On a pris une sacrée claque, quoi. On était super contents dans le sens où on est enfin à côté de la maison. Mais en même temps, les soignants, on se sentait pas écoutés, quoi. Enfin, à Lyon, on était tellement maternisés, tellement super bien accompagnés. Elles étaient bienveillantes, hyper délicates. On se dit, si vraiment vous êtes pas prêtes à faire les soins, ne vous inquiétez pas. On est là pour vous accompagner. Parce qu'ils étaient tout petits, enfin, quand on changeait Gabin. J'ai pas une grande main, mais ma main, elle faisait le tour de son bassin, donc c'était assez impressionnant. Il fallait surtout pas le prendre par les pieds, il fallait bien prendre par le bassin, enfin, que des choses comme ça, et là, du jour au lendemain, débrouillez-vous, c'est vos bébés, quoi.
C'est ça.
Ça a été très dur, franchement.
Moi, j'avais jamais fait de change, et le jour où j'ai fait mon premier change, donc c'était justement arrivé à l'hôpital de niveau 2, Je l'ai fait qu'une fois, elle m'a à peu près regardée. En fait, depuis, je savais tout faire. Donc, j'ai jamais changé mon bébé, je l'ai changé qu'une seule fois. Et puis là, bon, bah, c'est bon maintenant, bah, là, vous les changez tous. C'est bon, il n'y a pas de souci. Je pouvais à peine marcher, tout allait bien. C'était très, très compliqué.
Est-ce que vous assimilez ça potentiellement à la discrimination ou ils étaient comme ça avec tous les parents?
Non, je pense que c'est leur façon de faire en fait. C'est qu'on a tellement été maternés d'un côté et justement pas assez de l'autre. Il y a pas de juste milieu en fait.
Ouais.
Et tout ça en l'espace de quelques heures parce que le matin, Justin était justement dans l'hôpital de niveau 3 et l'après-midi, il était en niveau 2 et en gros, bah, c'est bon. Le matin, il était ultra surveillé. L'après-midi, oh, c'est pas grave, quoi.
Moi, ouais, c'est surtout ouais, ça.
Et puis, ils ont pas pris le temps de vous expliquer, enfin, de savoir ce que vous aviez fait ou pas fait avant, quoi.
Ça, pas du tout.
Puis même, enfin, pour, on va dire, enfoncer le clou un peu plus, Gabin est arrivé le dernier. Et Gabin est arrivé en hélicoptère, chose qu'on savait pas. Donc, ben, soit, hein, peut-être qu'il y avait un besoin de transférer à notre patient. Du coup, c'était le moyen, entre guillemets, le plus simple et le plus rapide. Et en fait, il est arrivé en hélicoptère, et a priori, il a eu très chaud dans l'hélicoptère. Et du coup, quand on arrive, la sonnante, elle nous dit « Ah ben, il a pris un coup de chaud en plus, hein. Du coup, on a ouvert les portes de la couveuse pour qu'il descende un peu en température. »
Il a failli cuire.
Ouais, il a failli cuire, entre il a cuit dans l'hélicoptère, je sais pas. Et en fait, bah, bim, reprends-toi une claque dans la figure. Et en fait, ouais, que des choses comme ça, ouais. Où déjà, on vit des choses super dures, ça fait qu'une semaine qu'ils sont là. Et en fait, les gens, je crois que... Pourtant, c'est des soignants, ils se rendent pas compte de la violence de leurs mots, quoi.
C'est ton petit bébé, c'est ton plus petit bébé, celui par lequel bah, il a fallu que tout le monde sorte. Mmh. Et là, on te dit ça comme ça, mais enfin, tu t'atterris pas, quoi. Mmh. C'est très compliqué.
Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ils sont forts sur certaines choses. Enfin, on peut pas dire le contraire. Enfin, nos soignants, quand même, ils sont formidables, mais ils sont pas formés à la communication.
C'est ça.
Clairement pas.
Mmh. C'est ça.
C'est une partie que je suis d'accord. Hein, j'ai eu des mots aussi, c'est des fois avec des soignants où c'est dur, quoi.
C'est ça.
C'est dur. Et une fois rentrée chez vous?
Ben, entre-temps, on a été retransférés dans un autre hôpital. Hein.
Oui, on a repris notre plaque.
Au niveau, hein.
Voilà, et un hôpital qui était quoi, à 10 minutes de chez nous. Mais par contre, ouais, on voit que typiquement, c'est un niveau 1. Et on se dit, mais heureusement qu'on n'a pas été là-bas. Parce qu'en fait, les soignants, ils nous laissent totalement
autonomes.
Ouais, ils sont pas formés. Autonome sans être autonome. Et là aussi, il y en a une grosse blague à raconter, mais c'est pas du tout une blague sur le moment. Hein. C'est que on s'était absenté parce que ben il fallait qu'on aille faire des courses et puis forcément il fallait bien qu'on rentre aussi à la maison laver nos linges parce que du coup notre linge pardon parce que du coup on passait toute la journée avec eux, on passait la nuit aussi là-bas pour pouvoir bien s'en occuper. Et il y a Justin qui avait du mal à téter et que souvent ben il s'étouffait, donc il fallait bien le surveiller quand il tétait. Et donc, du coup, on arrive, elle dit, ah, ben, lui, ça s'est bien passé. Par contre, Justin, tout violet, hein. J'ai montré à ma collègue en disant, ah, je crois qu'il y a un souci, regarde la tête qu'il a. Et en fait, elle nous dit ça à notre bébé. Enfin, ouais. Et là, c'était le truc. Et on se dit, mais, est-ce que notre figure ou, enfin, elle est infirmière, quoi. Elle a affaire à des bébés qui sont en néonate. Elle sait le parcours qu'il a eu, le petit tout. Enfin, je trouve ça vraiment, mais plus que j'ai passé, quoi. C'est, ouais. Au pire, il s'est passé un événement. Ben, elle nous dit, ben, c'était un peu compliqué avec Justin, mais bon, il a bien pris son bibi, puis c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de le savoir, on sait très bien, en plus, que ça lui arrive. Mais t'en parles pas comme ça, enfin, c'était, ouais, c'était violent, ça aussi, franchement. Cet hôpital, on s'en glissait qu'une chose, c'était partir. Mais vraiment.
Rentrer à la maison.
Ah ouais, on était mal dans cet hôpital, franchement. Autant, c'était tout neuf, ça avait été rénové, les locaux étaient très bien. Mais en termes de soignants, il y en a peut-être quoi? Deux ou trois qui tenaient la route?
Ouais.
Franchement. Sinon, c'était, c'était naze.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est resté, en fait, jour et nuit.
Ouais.
Parce qu'on leur faisait confiance.
Ah oui, d'accord.
On pouvait pas.
Ah, c'est dur quand t'as pas confiance.
Franchement, quand elle nous a dit ça, on a dit non, c'est pas possible. On reste avec eux. En fait, on a limite l'impression qu'ils vont mal les traiter, nos bébés. Enfin, c'était peut-être pas le cas, mais quand on se dit, oh, il est violé, regarde, elle montre à sa collègue. Enfin, ouais, pendant ça,
il réagit avant de montrer à ta collègue, quoi.
Non, mais c'est ça. Enfin, et c'était une infirmière, en plus. C'est même pas l'auxiliaire. C'est celle qui est la plus haut gradée, entre guillemets, dans ces services-là, quoi. Donc,
vous avez dû être soulagé d'arriver à la maison.
Oula, ouais, oui, franchement, complètement, vraiment. C'est pour ça que le retour à la maison s'est bien passé. Alors dans les premières semaines, des bébés nés préma, forcément, ça dit rien, ça dort toute la journée, jusqu'à ce que ça commence un peu.
Ça dort et ça mange.
Oui, ça dort et ça mange. Oui, c'est vrai.
Et ça remplit la couche.
Et ça remplit la couche.
Là aussi.
Jusqu'à ce qu'il se réveille ou les coliques commencent à arriver. Et là, c'est compliqué.
Et voilà, la difficulté de trois bébés en même temps, voilà. C'est devoir se partager, devoir être équitable tout en finalement n'ayant pas besoin de l'aide, puisque on met du temps à comprendre que chacun a ses besoins à un moment donné, et qu'on peut ne donner plus à un et donner plus à un autre la fois suivante, quoi.
C'est ça.
Donc, non, après la maison, ça s'est plutôt bien passé le retour. Moi, l'avantage, c'est que j'avais déjà prévenu que... Enfin, j'avais prévu de poser une longue période d'absence entre le congé... Alors, ça s'appelle paternité, malheureusement, on va dire du second parent.
Qui a été l'accueil de l'enfant, non, je crois, maintenant.
Ouais, si, peut-être. Bon, franchement,
je sais pas.
Ils appellent aussi des fois deuxième parent. Et l'avantage, ouais, c'est que j'avais pris quasiment 3 mois et demi après la naissance des bébés. Donc, j'ai pu en profiter. Puis, Solène n'était pas toute seule non plus, parce que c'est pas évident quand tu passes de 0 à 3 bébés d'un coup. Mais ouais, ça s'est bien passé avec des moments plus durs que d'autres. Forcément, les coliques, ça a été très compliqué parce qu'ils pleuraient, ils pleuraient. On savait pas quoi faire. Enfin, on a changé la vitamine D parce que ça venait de la vitamine D. Après, on a des probiotiques. Enfin, sauf qu'en fait,
il y a pas...
Ouais, c'est ça. Puis, à la sortie, on apprend qu'il n'y a pas de solution miracle. Il faut que ça passe, quoi. Enfin, c'est un mauvais moment à passer. C'est triste à dire, mais c'est ça, quoi.
C'est ça. Pour le moment, ils n'arrivent pas à traiter les coliques du nourrisson.
Non, ouais.
C'est ça. Donc voilà, puis que tout le monde trouve sa place, trouve ses marques.
C'est ça.
C'est surtout ça, avec tout le monde qui est pressé.
Toutes les visites.
C'est ça, ouais. Tout le monde qui est pressé de venir les voir, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'on est fatigué, que les bébés, c'est des prématurés, qu'il ne faut pas non plus trop les brusquer, que c'est des nouvelles odeurs, de nouvelles personnes. Et il y a certaines personnes de la famille, en l'occurrence ma sœur, qui a pas compris, quoi, qui l'a un peu mal pris, sauf que, ben, non, c'est des bébés, quoi, enfin, quand on vient prendre une photo, que l'appareil photo, il fait du bruit et que le bébé sursaute, il est en train de dormir, s'il te plaît, on le laisse dormir, enfin, c'est pas qu'on veut les surprotéger ou quoi, mais c'est juste que, ben, c'est la réalité, quoi, enfin, ils sont...
Ils ont déjà eu un bon début de vie bien compliqué, quand même,
agité, par
rapport à d'autres.
Ils étaient tellement attendus, et puis en même temps, au bout de 6 semaines en néonat, on comprend que la famille veut les voir, quoi, c'est logique.
Ouais, bien sûr.
Tout le monde devait débouler au même moment et nous, ouais, on n'a pas forcément envie. On a juste envie de se poser, d'être tranquille après tout ce qu'on a vécu et de pouvoir les voir après. Mais ça, c'est pas possible. Tout le monde veut les voir avant. Donc, on essaye de trouver un peu un petit moment pour tout le monde, mais ça reste compliqué.
Puis après, il y a aussi, faut pas négliger le couple, quoi.
Ouais.
C'est aussi se retrouver parce que t'as passé 6 semaines à l'hôpital et les gens ont passé 6 semaines. On a déménagé, la maison tu la connaissais pas, enfin il y a aussi un besoin à ce niveau-là, quoi. Donc
puis entre l'allaitement aussi, c'est compliqué. Il faut tirer son lait.
Tu l'as allaité ?
Ouais, pendant 2 mois et demi. Alors pas à 100%. Il y a que Gavin que j'allaitais à 100% parce que j'avais pas assez de lait, j'avais pas envie de me prendre la tête dessus, mais quand même un peu. mais c'est vrai que voilà, je voulais et j'ai quand même réussi à les allaiter, mais c'est hyper hyper contraignant parce qu'il faut tirer son lait parce qu'ils sont trop petits, ils peuvent pas téter comme il faut. Après on est arrivé à un moment donné où ils perdaient du poids, du coup on a arrêté justement la mise au sein et je faisais que du tire-lait, que du tire-lait, que du tire-lait, jusqu'au jour où j'ai dit c'est bon, stop, ça me saoule.
non mais c'est sûr qu'il faut que ce soit un plaisir, il faut pas que ça devienne une contrainte non plus, C'est très important aussi que le moment pour les deux soit un bon moment.
Donc c'est vrai que voilà, le seul temps de libre qu'on avait toutes les deux, je passais mon temps avec mon tire-lait de chaque côté, ma vache à traire.
Oui, je comprends.
Voilà.
Et du coup, j'avais une dernière question à vous poser. Les bébés vont avoir 6 mois ou ont tout juste 6 mois. Est-ce que vous avez commencé les démarches d'adoption ou est-ce que vous allez bénéficier de la nouvelle loi ?
Alors en fait, on s'était déjà renseigné bien avant, donc on savait qu'il fallait qu'on pouvait la demander qu'à partir des 6 mois. Donc ce qu'on a fait, c'est que vu qu'il fallait passer par le notaire, on est allé voir le notaire il y a peut-être 3 mois à leur naissance, 3 mois après leur naissance. Ouais. Donc on avait déjà fait cette démarche-là auprès du notaire, qui forcément a aussi un coût. Donc on va pas bénéficier de la nouvelle loi. On a lancé le dossier d'adoption, je l'ai posté il y a une semaine, au pile poil au 6 mois des bébés.
Donc on va bénéficier un peu de l'ancienne méthode.
Voilà, mais a priori, chez nous, ils sont assez rapides. On avait des connaissances qui nous ont dit que c'était assez rapide et qu'ils n'étaient pas là à chercher d'autres problèmes dans les dossiers ou des fois ils veulent des justificatifs supplémentaires, des témoignages de famille. On nous a dit non, nous, ça s'est passé très rapidement. Donc on attend. Voilà. J'espère qu'à Noël,
c'est vraiment aléatoire. Ça dépend des tribunaux, des régions. De chance à vous si effectivement vous n'avez pas besoin de témoignages de tous ces process-là qui sont quand même assez lourds et engageants. Demander un témoignage à quelqu'un, ça coûte. ça coûte énormément. Donc, ouais. Bon, en tout cas, franchement, j'ai adoré discuter avec vous et me ressasser moi aussi, enfin, me remémorer des souvenirs de, bah, de l'arrivée de mes enfants. Vous êtes une très belle famille. Je vous ai découverte, alors pas du tout par le côté LGBT, mais par le côté triplé. C'est bon, puisque je suis pas mal de mamans de triplé, hein, étonnamment. Et vraiment, votre famille, elle fait, je pense qu'elle en fait rêver plus d'un ou plus d'une, parce que voilà, enfin, oui, vous avez un parcours qui est un peu, qui a été un peu compliqué, un peu chaotique, mais aujourd'hui, quelle récompense.
C'est ça. Okay. Donc, quand on les voit tous les jours, on est plus qu'heureuse, même s'ils pleurent, même si c'est compliqué, même si, ben voilà, quand on les voit, on se dit que, ouais, on a réussi à avoir ce qu'on voulait. On a une famille, on a trois bébés qui vont bien et tout va bien.
Voilà, comme quoi faut pas non plus paniquer quand on vous annonce des triplés. Alors je sais que ça reste quand même relativement rare, évidemment, et c'est une très belle aventure que je souhaite à tout le monde, parce que vraiment c'est exceptionnel à vivre.
C'est ça.
Merci à vous les filles d'avoir bien voulu témoigner, d'avoir réussi à prendre le temps malgré les bébés tout petits. Et puis j'espère qu'on, bon, j'ai pas trop de doutes, mais je pense qu'on va continuer à suivre, et moi en tout cas je suivrai vos aventures avec grand plaisir et attention, parce que voilà, enfin, j'ai l'impression de repartir il y a 6 ans.
Merci à toi.
À très bientôt, merci à vous.
Merci.
Je dois vous l'avouer, c'est la première fois que cela m'arrive, mais j'ai coupé une grande partie de nos échanges, une quinzaine de minutes, parce que c'était des échanges où je partageais mon expérience à moi et que ce n'était pas mon histoire que l'on enregistrait aujourd'hui. Je vous propose par contre, si vous souhaitez réentendre notre histoire ou en tout cas l'arrivée des triplés, de me retrouver sur les différents podcasts que j'ai enregistrés avec Clémentine Sarlat sur la matrescence, avec Anne-Fleur Anderly sur Alors c'est pour bientôt, ou encore avec Élise de Prenons un café. Je sais que cet épisode est assez bouleversant, il répond à nos peurs parfois de devoir affronter une grossesse multiple. Et je sais qu'il peut aider, surtout pour se rendre compte que c'est une très belle aventure et que c'est une aventure qui est à vivre. Si cet épisode vous a plu, je vous propose de le partager ou de le faire découvrir, notamment à des futurs parents de multiples. C'est toujours très désacralisant. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et ou me laisser un petit commentaire, mais ça c'est un peu pour mon ego, je dois l'avouer. Quant à moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour continuer la discussion autour des grossesses multiples ou pour en commencer de nouvelles autour d'autres sujets. Et je vous souhaite une très belle semaine et vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. Nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out.
only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.